Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on se retrouve cette fois sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à nos auditeurs, nos auditrices qui nous rejoignent. On est avec Julien Drey. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Fondateur du mouvement Réinventé, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Peut-être un mot d'abord de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique, ancien présentateur télé bien sûr, est entendu en ce moment à Paris sur des accusations de viol et d'agression sexuelle. Il est arrivé à la brigade de protection des mineurs puisque l'une des personnes qui ont porté plainte, l'une des plaignantes, était mineure au moment des faits. Qu'elle lui reproche. Alors qu'est-ce qui est exactement reproché à Nicolas Hulot ? Explication avec Marie Aubazac, on en parle ensuite.
Oui, Nicolas Hulot est arrivé peu avant 14h à la brigade de protection des mineurs. Il est entendu dans le cadre d'une audition libre par les enquêteurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le 26 novembre dernier, après un reportage d'Envoyé spécial, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure. Dans ce reportage, il y a en fait 6 femmes qui accusent Nicolas Hulot de violences sexuelles, des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Et parmi ces 6 femmes, il y a une femme qui était mineure au moment des faits. Cette femme, elle avait ensuite déposé plainte. Elle a depuis été entendue par les policiers après l'ouverture de cette enquête préliminaire du parquet de Paris. Cette femme, elle a indiqué avoir été agressée sexuellement en 1989, alors qu'elle était âgée de 16 ans, par Nicolas Hulot dans la voiture de ce dernier, alors qu'il l'avait invité à participer à une émission qu'il animait à Paris. Ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les faits dénoncés semblent prescrits, le parquet de Paris ouvre désormais systématiquement une enquête en cas d'accusation de violence sexuelle contre des mineurs pour déterminer, en vérifiant les faits, s'il n'existe pas d'autres agressions qui, elles, ne seraient pas prescrites. De son côté, Nicolas Hulot, il conteste, il réfute ces accusations, il parle d'affirmations purement mensongères et il s'est depuis retiré de la vie publique.
Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Aubazac. Alexandre Devecchio, les affaires de ce type se succèdent et se suivent. Là, c'était l'ancien ministre de la Transition écologique. Aujourd'hui, on va en parler dans un instant, ce sont d'autres ministres qui sont au cœur de la tourmente. C'est important, encore une fois, que le parquet se saisisse de ces affaires, systématiquement ou pas ?
Je pense qu'il faut trouver une juste mesure. Il y a des affaires, il y a des affaires de viol très graves, et là peut-être qu'il faut que la prescription soit moins rapide. Il faut effectivement que les femmes soient bien accueillies au commissariat, qu'on prenne en compte leurs paroles, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut sacraliser toute parole et qu'il faut balayer totalement quand les faits sont prescrits. Si la prescription existe, c'est aussi que ça a un sens, que le parquet se saisisse tout seul d'autres potentiels, enfin d'une affaire qui est classée, qui s'en ressaisissent pour réveiller, pour voir s'il n'y a pas d'autres affaires. Ça peut avoir une utilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi...
Parce que la plaignante a décidé de porter plainte.
Il faut
à présent.
Des années après les faits, au moment où il y a prescription. Donc ça c'est... Je pense que c'est compliqué, qu'il faut trouver une juste mesure pour pas verser non plus dans la chasse aux sorcières. Alors dans le cas de Nicolas Hulot, il y a beaucoup de témoignages, il semble y avoir une accumulation de faits, mais il faut veiller aussi à ce que on ne détruise pas la vie des gens en livrant des affaires qui n'en sont pas ou pas encore à la vindicte publique, puisque une fois que c'est public, voilà, ça laissera quoi qu'il arrive des traces et il aura l'étiquette violeur sur la tête, quand bien même la justice ne sera pas passée. Je pense que dans un état de droit, faut que la justice passe et qu'il y ait enquête. Et on peut pas faire la justice sur les plateaux télé.
Julien Drey, il faut écouter la parole des femmes, mais voilà. Est-ce qu'il faut rajouter un mais ou est-ce qu'il faut juste écouter la parole des femmes ?
Il faut écouter la parole des femmes, il n'y a pas de mais. Elle est prise en considération. La seule question, c'est qui prend la décision ? Qui juge ? La justice ? Personne d'autre. Et personne ne peut le faire.
Sur la base de plaintes, parfois.
Sur la base des plaintes. Donc il faut respecter les procédures qu'on a progressivement mises en place et qui existent. Rien n'empêche aujourd'hui de porter plainte, si ce n'est des blocages psychologiques. Là, il y a maintenant toute une série d'associations qui existent, qui sont prêtes à écouter, etc. Le danger qu'on a dans le moment actuel, c'est qu'un certain nombre de personnes ou de médias se substitue à l'institution judiciaire et estime que, comme il y a eu par le passé une omerta ou un silence, c'est à elle maintenant de transgresser les règles d'état de droit. Et moi, je pense que la parole d'une femme doit être écoutée, respectée, prise en considération, mais l'innocence d'un individu doit être aussi respectée et prise en considération. Et la seule manière qu'on a de pouvoir tenir ces deux bouts-là, c'est la justice et qu'elle fasse son travail. Donc moi, ça ne me gêne pas que le parquet se saisisse, parce qu'au moins, il n'y a pas suspicion qu'on a tenté d'étouffer les choses.
C'est ça. Est-ce que, encore une fois, le soupçon, c'est on cache ce que font les puissants, ils sont protégés par la justice ?
Qu'il y ait eu par le passé, omerta, chaîne de puissance qui, ça c'est certain, et on voit bien sur d'autres affaires que ça existait. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça soit ça. On est aujourd'hui dans il y a eu des progrès qui ont été faits incontestablement. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'associations qui disent que c'est pas suffisant, que il faut se rendre compte que le traumatisme, la prise de parole, c'est très important. Certes, mais il faut faire très attention parce que un jour ou l'autre, ça peut déraper.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous pouvez avoir un innocent. On a déjà eu quelqu'un qui a été pris à partie, qui s'appelait Monsieur Baudis. Rappelez-vous les choses et rappelez-vous le drame que ça a suscité. Et donc, il faut faire attention. La parole d'une femme, je le dis encore une fois, doit être respectée, elle doit être prise en considération. Elle ne peut pas être écartée parce que c'est un puissant qui est en cause. Mais en même temps, un puissant, il n'est pas automatiquement coupable.
Alexandre Devecchio.
Là, le problème, c'est que les faits remontent quand même très loin. C'est pas un viol, c'est une agression sexuelle. Elle avait 16 ans au moment des faits, donc c'est effectivement grave, c'est sur une mineure. Mais ça fait plus de 30 ans. Donc, comment on va établir les faits ? C'est impossible, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a prescription. Donc, on balance ça sur la place publique. Et finalement, la justice ne passera pas, et on aura quelqu'un dont l'honneur sera sali.
Alors, je ne parle pas sur d'autres exemples, Alexandre.
Pas forcément que de Nicolas Hulot, parce que lui, il y a un gros dossier, mais c'est quand même une évolution qui paraît problématique si ça se systématise pour n'importe quel dossier.
Alors, moi, je pense que la commission des lois de l'Assemblée nationale qui va se réunir devra forcément prendre le temps d'étudier cette situation et de clarifier les choses. Je pense par exemple que la position qu'a fait Gilles-William Golnadel hier, de dire tant que quelqu'un n'est pas mis en examen ou qu'il n'y a pas ouverture d'une enquête préliminaire, la presse n'a pas à donner le nom de la personne.
Je pense que oui.
Mais quand il y a ouverture d'une enquête préliminaire, que la justice est saisie, on peut le comprendre, mais avant, qui prend la décision de...
Oui, moi je suis assez d'accord.
Oui, mais certaines femmes passent par la presse, encore une fois. Elles sont, voilà,
mais il y a faut le principe, pas
encore une fois, de témoignage.
Je suis désolé, je pense que c'est un mauvais système.
Il ne faut pas, c'est elles de décider, elles sont libres aussi, Alexandre.
Non, mais je vais vous dire... Elles ont
le droit de témoigner dans la presse, Dieu merci.
Le fonctionnement de notre pays, c'est qu'il faut en passer par la justice. Alors, soit on me dit la justice bloque les affaires.
Quand elles sont prescrites.
Non, je dirais, elles sont prescrites. Alors, à ce moment-là, il faut lever toutes les prescriptions. Donc, il faut déterminer le moment cela. C'est pour ça que je dis, la commission des lois, elle doit se pencher sur l'ensemble de ces choses-là pour clarifier. Parce que,
c'est-à-dire interdire aux journalistes de donner le nom de quelqu'un tant qu'il n'est pas mis en examen, c'est ça ?
Tant qu'il n'y a pas ouverture d'une instruction, pas qu'il est mis en examen, ouverture d'une instruction. Parce que là, pour l'instant, vous avez des choses qui sont... Je n'ai pas la solution. Ce que je sais, c'est que le système, pour l'instant, je n'ai pas la solution miracle. J'ai entendu Gilles-William faire cette proposition, elle m'a interpellé, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais je pense que le moment est venu que la commission des lois de l'Assemblée nationale, des deux assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat, prennent le temps de réfléchir pour remettre en place un système qui respecte les deux pôles qui, je crois, sont à respecter, la parole des femmes, mais l'innocence...
Ouais. Juste sur la presse,
la présomption d'innocence.
Parce que c'est très important, vous répondre. Moi, je pense qu'on est rentré dans un mauvais système. Parce que tout ça est parti de MeToo. Alors certes, ça a peut-être libéré la parole, mais c'est parti d'une histoire de balance ton porc sur Internet, où ça a été... D'ailleurs, le premier porc balancé n'était pas un. Celle qui a fait ça a été condamnée pour diffamation. Donc, on est rentré dans un système où, parce qu'il y avait sans doute une forme d'omerta, on a décidé qu'on balançait tout dans la presse ou qu'on balançait tout sur Internet. Je pense que les journalistes ont aussi une responsabilité et une éthique et ils ne sont pas obligés, quand il n'y a pas d'ouverture d'enquête, de tout balancer dans la presse.
Je pense que, juger,
par contre, il faut encourager effectivement
en
les femmes à porter plainte et il faut faire en sorte qu'elles soient bien accueillies au commissariat, bien accueillies par la justice.
Moi, je vous passe la parole dans un instant, Julien Drey, notamment sur ce sujet-là. On évoquera aussi l'affaire Damien Abad. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Julien Drey, Alexandre Devecchio. On évoquait l'affaire Nicolas Hulot, on va parler de celle de Damien Abad, accusé là aussi d'agression sexuelle. Vous dites, Julien Drey, que le rapport entre les femmes et les hommes risque d'être déséquilibré. Il l'a été pendant des millénaires, non, Julien. Alors,
je sais, j'ai beaucoup d'amis qui me disent c'est un temps difficile pour les hommes, mais il fallait en passer par là pour pouvoir rééquilibrer les choses, parce que pendant des années, il y avait la loi du silence, parce qu'on était soumise à cette loi, etc. Alors, je comprends cela, mais je pense que la question qui est posée, c'est, je prends un exemple très simple. La galanterie, moi, ça fait partie de mon éducation. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question de savoir si mon geste galant va pas être mal interprété. Voilà. J'ouvre la porte de l'ascenseur, je dis bonjour, je porte un... Je complimente sur la tenue, je l'ai fait à votre égard. Mais à chaque fois, vous avez remarqué,
Je peux me permettre.
Voilà. Vous voyez quand même que... Bon, alors vous allez me dire comme ça, on s'éduque. Peut-être qu'il faudra en passer par là. Bon. Voilà.
Alexandre Devecchio.
Non, mais moi, je pense que que les jeunes puissent draguer, qu'ils puissent avoir un peu de grivoiserie, un peu de galanterie, ça fait partie du charme de la France et je dirais de la nature humaine. Je pense que les filles vont finir par s'ennuyer elles ont des hommes terrorisés.
Mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles?
Et ben je peux
c'est
le dire.
C'est rétrograde à mort.
Je ne suis pas rétrograde. Je pense qu'au contraire. Julien a connu les années 70. C'était une période où il y avait un féminisme naissant, assez dur, mais qui était un féministe qui se revendiquait l'égalité des droits et pas que les femmes soient des petites choses, pas capables de remettre en place un homme. Je crois qu'on est dans une histoire victimaire et là on est en train de faire, comme on a fait parfois d'ailleurs dans l'antiracisme, des minorités des victimes par essence. On est en train de faire les femmes des victimes par essence. Je crois pas que ce soit.
Je crois pas que c'est du tout le statut qu'elle revendique.
Je crois que c'est une
agression. Elle revendique le droit de ne pas être agressée, pas être violée et pas être frappée.
Après, les agressions, c'est évidemment autre chose. Mais on parlait de la galanterie, Laurence. Vous ne parlez pas des agressions.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
La galanterie n'est pas répréhensible, Alexandre.
La grivoiserie. Non, la galanterie, la grivoiserie, c'est pas la même chose. Je dirais, le féminisme que moi j'avais connu dans les années 70, c'est un féminisme de la joie de vivre. C'est-à-dire, c'est un féminisme.
C'était aussi le droit à l'avortement, c'était un certain nombre de choses de féminisme.
Au sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'idée de trouver une harmonie dans ces rapports et de libérer les femmes de ces tutelles qui existaient et qui étaient terribles et dramatiques.
1965, je crois, pour avoir le droit d'avoir un compte chéquier séparé de son mari. Je remets tout ça en perspective.
Moi, j'ai commencé ma vie militante en défilant dans la rue pour le droit à l'avortement et en défendant les militantes du planning familial et en allant protéger les femmes qui allaient se faire avorter en Angleterre et qui étaient agressées par un certain nombre de mouvements à l'époque. Qui ne voulait pas de cela, donc je vous dis pas. Mais il y avait ce phénomène de joie de vivre et d'envie de vivre ensemble, de revivre ensemble à égalité. Et je pense que c'est ça. Alors maintenant, si vous me permettez, une remarque. Moi, je suis d'accord pour tous les combats féministes, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est que il y a des combats féministes terribles à mener dans le monde aujourd'hui. Terribles. Ce qui est en train de se passer en Afghanistan... Moi, si vous voulez, j'ai la rage au ventre. Si j'avais 20 ans, je descendrais dans la rue, j'irais faire des piquets. Alors, je peux le faire encore, mais j'irais faire des piquets de manifestation devant l'ambassade d'Afghan. On remet les voiles partout. Rappelez-vous ce que vous avez dit.
À la télévision, les présentatrices sont obligées de se voiler la face.
Je vous signale que les présentatrices sont d'abord descendues dans la rue et qu'elles ont été réprimées, qu'elles ont été obligées de l'admettre. On revend des petites filles de 5 ou 6 ans pour qu'elle se marie avec des hommes. Voilà la réalité.
Quand les familles sont pauvres.
Ouais, quand les familles sont pas que quand les familles sont pauvres.
Non seulement les féministes ne dénoncent pas cela, mais en plus, pour une grande partie d'entre elles, nous expliquent que le voile est féministe, soutiennent le burkini. Donc j'avoue que moi, j'ai du mal à prendre
pas
au sérieux.
Pas toutes les féministes non plus, Alexandre.
À prendre au sérieux une partie, j'ai dit, une partie d'entre elles, Et pour le coup, ça, le burkini, le voile, et je ne parle même pas de ce qui se passe en Afghanistan, c'est vraiment rétrograde. Je dirais même que c'est ultra réactionnaire.
Non, alors que les choses soient claires, parce que si je connais le procès, on va me dire oui, vous servez de ça pour éviter d'avoir. Mais je dis l'un n'efface pas l'autre. Et je pense que le mouvement féministe actuel, en tous les cas, une partie de celles qui sont au devant de la scène, gagnerait aussi à montrer qu'elles sont intransigeantes dans ces combats-là.
Il y a des grandes voix comme Elisabeth Badinter qui disent aussi qu'on n'arrivera que. Au moment de l'harmonie entre les femmes et les hommes, y compris de l'harmonie. Donc ça,
oui,
problème, on n'est pas tous dans une logique d'affrontement.
Le problème, c'est qu'Elisabeth Badinter, elle fait pas de procès public.
Elle est très opposée aux féministes, Elisabeth Badinter.
Elle fait très attention à ce qu'elle dit en la matière. Moi, je suis pas en train de faire le procès des uns ou des autres. Je dis simplement que dans le combat féministe, si tout d'un coup, on oublie tout ce qui, d'après moi, est quand même même l'essence même de la liberté des femmes. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est quand même l'horreur absolue. Et là, maintenant, il y a une sorte d'omerta qui se fait. C'est-à-dire, on regarde plus, on sait plus que ça existe. Bon, bah, je suis désolé, mais je suis gêné. Voilà.
Alors, on va revenir à l'actualité politique. C'est l'affaire Damien Abad, avec cette polémique qui ne faiblit pas autour de la nomination de ce ministre des Solidarités accusé d'agression sexuelle par deux femmes. On a eu tout en l'air en ligne Muriel, qui est l'ancienne aide-soignante de Damien Abad. Elle a été à ses côtés pendant plusieurs années. Écoutez le témoignage qu'elle nous a apporté, parce qu'il dit la réalité du handicap de Damien Abad. On l'écoute.
Moi, quand j'intervenais chez lui, Damien a toujours été très respectueux, dans le sens où il arrivait à se débrouiller pour prendre sa douche tout seul. Par contre, moi, j'intervenais pour l'essuyage et puis l'habillage, parce que pour lui, il est dans l'incapacité de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. Quand j'ai entendu les accusations portées sur Damien, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années, j'ai pas compris. Après, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes, mais quand on explique qu'une jeune femme a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, je me dis que c'est ubuesque, dans la mesure où je vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter.
Julien Drey, on a le témoignage de quelqu'un qui était auprès de Damien Abad de 2009 à 2012, qui dit qu'il est incapable de mettre des chaussures, de fermer sa chemise. La justice, là, pour l'instant, n'est pas saisie, puisqu'il y a deux plaintes qui ont été classées sans suite et une autre plaignante anonyme qui n'a pas déposé plainte. Donc, ce qui n'est pas une plaignante, une femme. Là, est-ce que la polémique doit s'arrêter ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet engrenage ?
Faut que... Je ne sais pas, mais voyez le côté voyeuriste dans lequel on est. C'est-à-dire, moi-même, hier, quand on en a débattu, je vous disais que j'avais beaucoup de prévention, parce que je ne voulais pas évoquer son handicap et que je ne voulais pas qu'il devienne une sorte de prétexte. Et j'étais prudent, mais regardez, dans la logique... comment les choses évoluent maintenant. On a des intervenantes qui viennent témoigner. Bientôt, il va falloir reconstituer les gestes. Je pense que la seule solution, c'est que la justice, elle a donné son avis. Elle redonnera peut-être son avis. Il faudrait peut-être qu'elle redonne son avis. Et puis, à un moment donné, après, je ne sais plus comment on fait.
On va écouter Xavier Bertrand, parce que lui, il estime que et le président de la République et la première ministre Elisabeth Borne étaient au courant de ce qui s'était passé pour Damien Abad. On va l'écouter. Il était interrogé ce matin sur Europe 1 par Sonia Mabrouk.
Bien sûr que non. Allons, qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas ? Vous savez, mais quand
elle
vous
l'a
êtes...
dit, elle l'a dit qu'elle ne savait pas.
Allons.
Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important ? Elle aurait menti ?
Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière. La vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou autre, à un moment ou un autre, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je connais Damien Abad. Il en a forcément parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut, à un moment donné, venir perturber la vie gouvernementale ? Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause.
Donc, Alexandre Devecchio, ils étaient au courant, l'exécutif était au courant.
Mais en fait, ils étaient au courant qu'il y avait deux plaintes classées. À partir du moment où il y a deux plaintes classées, si la justice a classé les plaintes, je ne vois pas pourquoi ça l'empêcherait d'être ministre. Ensuite, a posteriori, il y a un article de Mediapart fondé sur un témoignage anonyme, et pour l'instant, il n'y a que ça. La justice n'a pas ouvert d'enquête, donc je suis désolé, et je trouve que Xavier Bertrand, on pourrait lui renvoyer dans les dents, pardonnez-moi de parler comme ça, parce que peut-être qu'il y avait des gens aussi qui, si vraiment il a un mauvais comportement avec les femmes, qui savaient à l'UMP. Donc non, je trouve que c'est pas... je suis pas convaincu, puisque je suis encore une fois sur une question de principe, et je pense qu'il faut respecter la présomption d'innocence. d'innocence, qui plus est quand il n'y a pas d'enquête d'ouverte. Mais j'aimerais revenir sur le témoignage de l'aide-soignante. C'est tout le problème de faire du déballage médiatique comme ça. C'est que là, on est en train de faire l'enquête sur les plateaux de télé et en train d'enquêter effectivement sur la vie privée de Damien Abad, qui avait peut-être un peu de pudeur.
Je vous précise, Alexandre, que cette dame a souhaité témoigner.
Non, mais c'est
très bien. Elle-même qui a démarché les médias. Elle l'a dit parce qu'elle voulait prendre la défense de Damien Abad, qu'elle estimait.
Elle a bien fait de le faire, d'ailleurs. Mais CNews a bien fait de prendre ce témoignage-là. Mais le fait que Mediapart ait révélé une affaire fondée sur un témoignage anonyme sans que la justice ne soit passée, c'est ce que je vous dis, ça nous conduit, ça met tout le monde dans l'obligation de faire la justice sur les plateaux. Et cette dame, on voit qu'elle était gênée, qu'elle voulait respecter la pudeur de Damien Abad, mais elle a essayé de l'aider en disant des choses qui lui paraissaient justes. Mais c'est pas normal qu'on soit obligé de faire ça maintenant. Et ensuite, je voudrais revenir sur Mediapart et sur ce témoignage anonyme. C'est vrai que Edwy Plenel, aujourd'hui, dans la profession, est vu comme un saint, comme le modèle absolu du journaliste. C'est vrai que, des fois, il y a eu des enquêtes qui se sont révélées exactes. L'affaire Cahuzac, qui était basée sur une dénonciation, c'était pas vraiment une enquête, mais il y a eu aussi des dénonciations fausses. Julien Drey parlait de l'affaire Baudis, qui était déjà une affaire de mœurs. C'était totalement fantaisiste, ça a pourri sa vie. Il est mort, je crois, quelques années après d'une maladie, parce que sans doute cette affaire l'avait ébranlé. Donc là, il faudrait aussi revenir sur l'éthique de Mediapart et de certains journalistes. Je pense que sortir un témoignage anonyme comme ça, pour moi, c'est pas, je le dis, c'est pas éthique journalistiquement. Maintenant, la justice dira ce qu'elle a à dire si Damien Abad est coupable de quelque chose.
La question qui est posée, c'est que c'est évident qu'ils ne peuvent pas dire on ne savait pas, puisque deux plaintes existaient. Et là-dessus, Xavier Bertrand a raison. Quand on constitue un gouvernement, tous ces éléments-là, ils sont sur la table.
Oui, mais ils sont classés.
La question, évidemment, c'était que les plaintes, ils le savaient, mais qu'elles étaient classées. Mais derrière, la deuxième question, c'est est-ce qu'il fallait prendre le risque au regard du monde médiatique dans lequel on est et du rôle que joue un certain nombre de médias qui utilisent, qui instrumentalisent et existent d'un certain point de vue grâce à cela. Ils ne pouvaient pas imaginer que cela allait passer inaperçu et qu'il n'y allait pas y avoir. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas pris le risque de surexposer M. Abad en le nommant ministre en sachant que tout ce qui allait se passer? Et ça, c'est le dialogue qu'ils auraient dû avoir avec M. Abad, qu'ils auraient dû avoir entre eux. Et d'après moi, la prudence aurait dû être de mise.
C'est vrai que là, politiquement, la situation risque d'être intenable, mais en même temps, ça veut dire que aujourd'hui, il peut y avoir des plaintes classées, et en fait, votre vie politique, elle est foutue. Enfin, pas totalement foutue, mais vous pouvez plus être ministre alors que la justice est passée.
C'est pour ça qu'il y a des justices parallèles
aujourd'hui dans ce pays.
Alexandre, je pense que le moment est venu que calmement et sereinement, dans les assemblées, l'ensemble de ces dispositifs soit revisité pour créer les conditions de quelque chose qui soit équilibré. Parce que effectivement, maintenant, on est dans le subjectif, c'est-à-dire on se dit les plaintes ont été classées, donc ça va passer, mais en même temps, on sait que ça ne passera pas. Parce qu'il y aura forcément une soumission qui sera rejetée et qui expose, vous savez, moi...
L'ensemble du gouvernement.
Voilà, qui expose l'ensemble du gouvernement. Vous savez, moi, je regarde M. Abad, et je pense que, honnêtement, il doit pas être. Je sais pas ce qu'il a fait. Je suis particulièrement, je sais pas, comme beaucoup d'autres. Moi, je suis pas un voyeur et j'aime pas le voyeurisme. Et je pense qu'il y a une souffrance aussi qui n'excuse pas la souffrance des victimes s'il y a victime. Hein, mais bon.
J'aimerais juste qu'on écoute Mathilde Viaud, qui est de l'Observatoire des violences sexuelles, qui s'est saisie notamment de cette affaire Damien Abad. Elle estime qu'il y a un deux poids deux mesures en politique. Écoutez-la.
Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de François Bayrou pour emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de fait supplémentaire de la justice. François de Rugy, il a été mis en cause pour 4 homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, des accusations de viol sont moins graves que 4 homards.
On peut faire cette comparaison, Julien Drey?
Non, on peut pas la faire, puisque les plaintes, elles ont été classées sans suite. Donc, c'est pas de la même nature. Je signale par ailleurs que oui, il y a deux poids et deux mesures. Parce que cet observatoire-là, politiquement parlant, il est marqué. Il est marqué par par un certain nombre de responsables de la France insoumise qui sont présentes. Mais j'ai remarqué que ces responsables de la France insoumise, lorsqu'il s'est agi d'une autre affaire, là aussi où M. Tahavouaf était présumé innocent, tout ça, ça s'est fait dans un huis clos. On nous a expliqué que les accusations étaient extrêmement graves, mais on ne saura jamais rien de ce qui s'est passé.
Parce qu'il n'y a pas eu de plainte.
Parce qu'il n'y a pas eu de plainte, mais parce que justement, il y a eu une forme de négociation qui visait à ce qu'il se retire contre le fait qu'il n'y ait pas de plainte.
Les affaires ne sont pas de la même nature. Manger des homards n'est pas un délit, effectivement, mais il n'a pas été viré parce qu'il avait commis un délit. Il a été viré parce que symboliquement, politiquement, ça résonnait en contradiction avec les idées qu'il défendait, avec les idées qu'essayait de porter le gouvernement. Donc il y a une affaire politique d'un côté, et il y a une affaire de mœurs de l'autre, et en plus une affaire, on l'a rappelé, classée. Le gouvernement ne savait qu'une seule chose, c'est qu'il y avait eu deux plaintes qui étaient classées, la justice était passée.
18h30 sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
Jean-Luc Lahaye, placé sous contrôle judiciaire, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur deux mineurs de 15 et 17 ans, le chanteur avait été placé en détention provisoire en novembre dernier à la prison de la Santé. Il lui est désormais interdit d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra verser une caution et se présenter tous les 15 jours au commissariat. La Russie laisse entendre que le conflit en Ukraine va durer. Le ministre russe de la Défense a déclaré « Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale et la pression sans précédent des sanctions ». À Roland-Garros, c'est fini pour de bon pour Joe Wilfried Tsonga. L'ex numéro 1 français et numéro 5 mondial a été éliminé au premier tour par le Norvégien Casper Ruud en 4-7. Une rencontre de 3h49. Le tennisman de 37 ans, blessé à l'épaule droite en fin de partie et en pleurs sur la balle de match, tire sa révérence. Une fin de carrière après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français.
On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On parlera de sécurité, de rodéo urbain. Il y a un film en compétition à Cannes qui met en lumière les auteurs de rodéo. Et puis il y a un enfant aussi de 5 ans qui a été blessé à Pantin dimanche lors d'un rodéo urbain. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Julien Drey, toujours, fondateur du mouvement Réinventé, Alexandre Devecchio du Figaro. Ouais. Et nous avons été rejoints par Mathieu Vallet, bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va parler avec vous des rodéos urbains, cet accident qui s'est produit à Pantin dimanche. Un enfant de 5 ans a été blessé. Et puis aussi cette actualité à Cannes, où un film en compétition, présenté par la réalisatrice Lola Kivoron, a créé la polémique, puisqu'elle a affirmé que les accidents lors des rodéos urbains sont souvent causés par la police. On fait le point avec Yann Effele et on en débat avec vous.
Elle en fait le cœur de son nouveau film.
Comment gérer une Amazon, bâtard ? On dirait...
Mais c'est dans son interview aux médias Combini que Lola Kivoron, la réalisatrice, met le feu aux poudres. D'une part, elle exprime une fascination pour les rodéos.
C'est une pratique assez mal comprise. Tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous.
D'autre part, elle met en cause la police.
En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout, les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort.
Des propos qui ont choqué, notamment le syndicat des officiers et commissaires de police.
Lola Kivoron fait tranquillement l'apologie de voyous qui importunent le quotidien de nos concitoyens. Nous pensons à toutes les victimes de ces délinquants. Nous pensons à tous ces jeunes morts en pratiquant ces rodéos. Nous pensons aux policiers qui luttent contre ce fléau.
Ces dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause des rodéos urbains. 1400 condamnations ont été prononcées en 2021 contre des pratiquants.
Alors Mathieu Vallet, vous êtes commissaire de police. Quand vous entendez que c'est à cause de la police qu'il y a des accidents de rodéo, qu'est-ce que vous dites ? Ça vous fait bondir ?
D'abord, le festival de Cannes, c'est un peu la jet set d'entre-soi. On est tranquille, on peut boire des coupes de champagne, manger des cacahuètes tranquillement, sans connaître le quotidien du peuple français.
Je crois que c'est des cacahuètes.
De ces quartiers, oui. Bon, enfin, en tout cas, ils jettent des cacahuètes au peuple qui vivent les problèmes qui, en tout cas, méconnaissent dans ce festival. À chaque fois, Bac Nord, on nous avait déjà fait le coup, ça avait déplu parce que on montrait la réalité des policiers qui, au quotidien, luttaient pour qui,
pour le coup, c'était la réalité.
Ah, mais c'était la réalité, d'accord. Mais enfin, le film n'a pas été récompensé. Donc, ça doit déplaire à ces gens de la jet set cannoise au festival. Là, or, bis repetita, on a une dame qui nous explique qu'elle vient d'épiner sur scène, Noëlla Quiveron. Et en fait, il faut dire à cette dame que c'est pas la police qui tue, c'est les voyous, ces fous du deux roues en crosse, non homologués, sans casque, qui tuent. Donc, la police ne tue pas, par contre, ces voyous tuent. Et vous avez eu raison de dire, dimanche à Pantin, on a un garçon de 5 ans qui a eu le malheur de, en fait, profiter du beau temps et de s'aérer dehors avec ses camarades et puis d'être percuté par un de ces voyous. En fait, tous les jours, on lutte contre ces voyous. On a eu une loi qui permet de lutter contre ces rodéos parce qu'avant c'était compliqué pour les policiers. Aujourd'hui, le cadre légal est là, sauf que c'est difficile pour nos collections de terrain d'intercepter ces fous du deux roues sans causer d'accident ou sans, s'il y a un ces fous sans casque qui pourrit quotidien, genre c'est pas que du bruit. Moi, je viens d'un quartier populaire, j'ai grandi dans une cité, il y a pas que le bruit qui gêne. Moi, j'avais une mère malade. Quand de midi jusqu'à 20h, vous avez des vombrissements, vous avez du rodéo, du gymkhana dehors, je peux vous assurer que c'est l'enfer pour ces habitants. Mais c'est vrai que quand on est dans des palais assez luxueux, de manière très protégée, dans des quartiers ultra bourgeois, c'est un peu compliqué de connaître la réalité des Français.
Alors, Alexandre Devecchio.
Non, juste, j'ai un point commun avec la réalisatrice, c'est que j'ai grandi aussi à Épinay. Effectivement, on n'a peut-être pas le même regard sur les choses. Je trouve son propos insultant en réalité à l'égard des pauvres, des gens qui habitent dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui ont des révoltes sociales, etc. Mais je ne crois pas qu'ils les expriment en faisant du rodéo. Donc, c'est un peu prendre les pauvres, confondre les pauvres et les délinquants, en fait. Donc, je trouve, au final, c'est insultant pour les gens qui vivent dans ces quartiers, qui sont de milieux modestes et qui attendent aussi d'être protégés.
Julien Drey, quand elle dit « quand tu t'empares du bruit, tu te fais entendre ». Ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de vivre dans les quartiers et de se faire entendre.
Tu te fais entendre par qui ?
Voilà, la question.
Tu te fais entendre par ceux qui vivent et qui voudraient avoir du calme parce qu'ils vont se lever à 5h du matin.
Ou par la police.
Qui vont travailler. Tu te fais entendre par la police quand elle arrive à rentrer dans ces quartiers. Et en général, d'ailleurs, eux, comme ils ont des engins qui vont très vite, la police, c'est très compliqué pour elle de les arrêter. Et en plus, c'est très dangereux parce qu'effectivement, il y a le risque des accidents et il y a le risque derrière qu'on les accuse d'avoir, par la poursuite, créé ce type d'accident. Moi, si vous voulez, j'ai pas beaucoup de considération pour ce type d'artistes qui passaient du bon côté de la société, commencent à expliquer qu'il y a une forme de révolte et que cette révolte, elle est compréhensible, etc. D'abord, les jeunes qui font ces rodéos, ils jouent avec leur vie, mais ils jouent avec la vie des autres. En plus, s'ils veulent faire de la moto, il y a des circuits maintenant, où on peut aller faire de la moto avec des casques, on peut se libérer par cela, on n'est pas obligé d'aller embêter les gens dans les cités.
Est-ce que c'est pour ça aussi, Mathieu Vallet, que la police n'intervient plus directement sur les rodéos urbains ?
Alors,
elle va plutôt saisir les véhicules une fois qu'ils sont arrêtés.
On a la vidéoprotection lorsque les villes sont équipées qui nous permettent d'identifier, parce que malheureusement, je ne vous apprends rien, c'est souvent les mêmes, ces fameux multirécidivistes qu'on arrête 10 fois et qui ressortent 10 fois. Donc on sait souvent qui sont sur ces deux roues. Et quand ce n'est pas le cas, on fait des opérations de contrôle de parties communes, on fait des contrôles routiers, c'est-à-dire aux abords des cités, dans les cités, pour essayer d'intercepter ces deux roues. On a de la chance dans la police d'avoir des motards qui ont des formations les plus exigeantes de la France en matière de conduite en deux roues et qui permettent d'intercepter aussi ces fous du deux roues. Et vous avez raison, M. Drey, M. Devecchio. Moi, je viens d'un milieu très populaire et en fait, je me sens insulté et blessé par les paroles de Noëlla Quiveron. En fait, c'est cette bourgeoisie, visiblement, qui veut cacher la poussière sous le tapis et qui, en fait, ne connaît rien au quotidien des gens. Moi, j'y travaille tous les jours dans ces quartiers, et y compris aujourd'hui dans le Val-de-Marne. On voit bien que c'est compliqué, que c'est dur, que ces policiers courageux, ils protègent les plus faibles, la veuve et l'orphelin, ceux, en fait, qui n'ont pas accès aux coupes de champagne et, en fait, à ces milieux ultra aisés où on fait la révolution, en fait, en carton et en pâte de carton. Parce que cette personne-là, j'aimerais bien la voir, en fait, au quotidien, aux côtés de nos collègues, avec un uniforme, pour montrer que non seulement ces voyous en crosse, ils blessent, mais ils tuent. On a eu à Amiens une femme qui avait été tuée. On a aussi en province des personnes qui sont blessées. Et c'est l'enfer. Les trafics de stupes, les occupations de l'immeuble, les rodéos en voiture ou en crosse, c'est ce qui pourrit le quotidien des gens et ce qui, en fait, mine le contrat social français et qui fait qu'en fait, quand on habite en France, on aime bien être en sécurité. La sécurité, finalement, c'est l'affaire du peuple et c'est les policiers qui s'en occupent. Mais c'est vrai que c'est plus cette élite, en fait, qui est déconnectée des réalités du peuple.
J'ajoute que c'est encore plus terrible. Parce que ces rodéos-là ont lieu souvent la nuit, que ça fascine évidemment les plus jeunes, et que ça les incite à faire n'importe quoi après avec leur mobylette ou avec leur vélo. Et donc vous les voyez après mimer ce qu'ils ont vu le soir, ils le font y compris eux, pas avec les mêmes conditions de sécurité, parce qu'une partie de ceux qui font des rodéos, ils ont des super casques, ils ont les blousons en protection, etc. Donc quand ils tombent, finalement, il leur arrive pas grand-chose. Mais les autres, les gamins qui veulent faire la même chose, eux, ils ont pas les protections. Et en général, les accidents, ils sont très graves. Et je pense que c'est insupportable. Voilà.
Alexandre, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je voulais dire que, oui, j'ajouterais que ils vont pas déranger effectivement les beaux quartiers, hein, les beaux quartiers plutôt protégés.
Ça se produit à Lyon, place des Terreaux, hein, attention.
Alors là, c'est à Lyon, mais la plupart du temps, on présentait ça comme quelque chose effectivement pour se faire entendre, qui va faire la révolution. Ça fait pas la révolution. Les gens qui ont les moyens de se protéger se protègent. Alors c'est vrai, de moins en moins. Mais vous avez raison.
Eux, ils revendiquent pas la révolution.
Que
hein, c'est la réalisatrice
et,
qui.
Et ils revendiquent pas la révolution. Je trouve que. Que vraiment, elle, en plus, elle pense leur rendre service. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elle vient apparemment de ces quartiers-là. Elle pense leur rendre service en faisant ce genre de film. Je crois que c'est pas du tout le cas. En fait, elle valorise la délinquance, donc elle encourage les délinquants à rester dans la délinquance, et elle encourage finalement à ce que la police ne fasse pas son travail pour les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui ont la vie pourrie. Donc c'est paradoxal, mais je trouve qu'en fait, c'est un film où elle veut rendre au quartier où elle est née. En fait, c'est finalement très égoïste.
Alors,
j'ajoute une chose, Julien, c'est que ceux qui pratiquent ces rodéos là, c'est pas James Dean. Hein. Voilà, c'est pas
les films. C'est
pas la fureur de vivre, etc. Par ailleurs, c'est l'apologie du capitalisme libéral le plus débridé, parce que ça vaut beaucoup d'argent, ces motos-là. Le matériel qu'ils utilisent vaut beaucoup d'argent, et ils sont pas dans la révolte sociale. Ils sont au contraire dans des gains financiers considérables. Souvent, d'ailleurs, ils ont des pratiques illicites pour avoir l'argent pour ça. Donc tout ça, c'est un monde, et faire de ce monde-là un instrument de révolte contre la société, c'est d'après moi effectivement le problème.
J'ajoute sur ce que vous dites que nous on fait deux propositions. Vous savez qu'aujourd'hui, quand les policiers interpellent ces fous du deux roues, des véritables dangers publics ambulants, en fait, on saisit les deux roues. Nous, on veut que dans la loi, on systématise la destruction des deux roues. Je vous donne un exemple très concret. On interpelle un voyou sur un deux roues qui lui appartient pas. Le propriétaire se présente avec la facture de deux roues. Il la récupère. Aujourd'hui, on dit que, qu'il soit propriétaire ou pas, s'il est chopé le voyou avec un deux roues qui lui appartient ou pas, c'est destruction systématique. De cette manière, on le retrouvera pas une heure plus tard sur la voie publique. Et la deuxième chose, il faut un grand débat. Vous avez eu raison, Laurence Ferlet, de souligner. Dans le deuxième arrondissement lyonnais avec les Dalton, on a eu ces fous furieux qui pouvaient faucher des passants, des personnes âgées et des enfants lors des samedis assez enchalandés dans les galeries commerçantes. Et nous, c'est la question que le Parlement devra se poser pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce que les policiers font lorsqu'il y a un flagrant délit et qu'on sait qu'il va avoir un risque de danger de mort imminente pour les passants qui subissent ces voyous? Est-ce qu'on fait, comme
vous
en Angleterre, le choc tactique?
Ils le font assez peu.
Mais est-ce qu'on fait un cadre légal comme ça? Et il faut qu'il y ait un vrai débat sur ça. Il faut que les policiers, en fait, on leur dise clairement ce que la population, elle veut. En sécurité publique, en province, les policiers n'ont pas le droit de faire des prises en charge de ces deux roues. À la préfecture de police de Paris, le préfet les autorise. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que dans le 93, on a le droit de poursuivre? Mais est-ce que dans le Val d'Oise, vu que c'est pas le même secteur territorial, on n'a pas le droit? Là, c'est pareil. Il faut une uniformisation, en fait, des pratiques.
Oui, mais je pense que plutôt que d'aller dans des contacts qui sont quand même à chaque fois très risqués, la généralisation de la vidéo et des plans nécessaires pour faire ces vidéos, parce que en général ils font tellement de bruit que c'est pas très compliqué d'approcher en voiture, de filmer tout ça et d'avoir les plaques, d'avoir les identités, d'avoir.
Mais l'idée c'est que quand ils représentent un danger de mort imminent, voilà, comme dans les rues de Dalton.
D'accord. Voilà. Mais sinon, le travail.
Faut-il que les villes soient équipées de vidéoprotection? Voilà. Elles ne le sont pas toutes. Par idéologie.
Ou qu'on donne les moyens d'avoir des caméras infrarouges qui permettent de faire le repérage nécessaire.
Les drones, quoi.
Et d'aller les drones, par exemple, aussi.
Bah, on peut enfin utiliser les drones. Le Conseil Constitutionnel a enfin été du côté des policiers, et pas des voyous, en disant qu'on peut utiliser les drones.
En général, à 6h du matin, vous pourrez les arrêter assez facilement parce qu'ils dorment.
On évoquait les risques pour les piétons. Ce qui s'est produit à Pantin dimanche en est l'illustration exacte. Un enfant de 5 ans a été blessé un passage piéton avec sa maman par des motards. Écoutez ce témoin qui a assisté à la scène. Il a été interrogé par Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
Donc, comme vous savez, les gens se promènent dans la rue, c'est le week-end, et ils profitent. Après, il y avait 3 scooters, ils se sont lancés à une vitesse quand même, je trouve que c'est assez énorme, vu que c'est le passage des piétons. Donc, ils ont percuté une dame avec son enfant, elle était derrière, et l'ont fait tomber par terre, ce qui l'a rendu vraiment en état grave. Il y a du sang par terre, partout. J'ai entendu les gens crier et tout, donc c'était un peu grave. Après, ils ont venu chercher des glaçons pour l'enfant, mais ils ont vu que c'est pas possible, donc ils ont appelé les pompiers. Heureusement que les pompiers et la police, ils sont venus en même temps. Après, vu qu'ils ont vu que c'est vraiment grave, donc ils ont pu appeler la SAMU pour le prendre à l'hôpital.
Mathieu Vallet, ça c'est la conséquence directe des rodéos urbains. Un enfant de 5 ans à l'hôpital et sa mère blessée.
C'est dramatique, vous imaginez que là l'enfant a été blessé, il n'a pas perdu la vie et heureusement pour cette famille on a évité un drame absolu. Et Walid qui témoigne dans votre reportage, en fait c'est pour ces gens-là, c'est pour toutes ces personnes à qui on ne donne jamais la parole et à qui vous avez la gentillesse de permettre de témoigner sur votre antenne, que nous en fait c'est notre carburant. La police, pour son travail, sa vocation, notre slogan c'est vous, c'est pas qu'un slogan, c'est réellement ce qui en fait imbibe et imbrique chaque policier de France. Et on voit bien que lorsqu'on veut interpeller des voyous, c'est pas pour se faire plaisir et créer en fait des difficultés ou même tuer des gens. On est là en fait pour empêcher les gens qui veulent nuire aux autres gens de vivre. En fait, on est là pour empêcher que les voyous puissent pourrir le quotidien des gens. Et quand on dit pourrir, c'est pas simplement les embêter au quotidien, c'est aussi permettre à ce gamin, en fait, de sortir un dimanche après-midi avec ses parents sans pour autant avoir peur d'être percuté par un fou furieux
sur un passage piéton.
Sur un passage piéton, qui en a rien à foutre de rien. Et dont la vie ne vaut rien. Parce qu'aujourd'hui, pour les voyous, ils partagent tous le même leitmotiv, la même motivation, c'est que la vie ne vaut rien. On fauche des policiers sur des refus d'obtempérer, on fauche des passants et des gamins avec des deux roues non homologuées, sans casque et en faisant n'importe quoi. Donc, l'ensauvagement de société, en réalité, aujourd'hui, c'est ça. C'est que la vie pour ces voyous ne vaut rien, et face à ces voyous, ce sont les policiers qui en payent le prix fort, on le voit régulièrement dans votre actualité, pour protéger le peuple et donc protéger ses habitants.
Julien Drey, la vie ne vaut plus rien pour certains de ces jeunes?
C'est-à-dire que c'est pas qu'elle vaut plus rien, c'est que la vie, elle doit être vécue dans l'instant. Et on doit en profiter au maximum sans penser au lendemain. Voilà. Donc ils sont dans une jouissance totale avec l'idée que c'est l'instant qui compte et c'est le comportement qu'on va avoir dans l'instant, la prise de risque qui fait la fureur de vivre entre guillemets. Alors j'ajoute autre chose. La question qui est posée là, on voit bien, c'est que les scooters, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les jeunes sur les scooters, ils vont le faire comme les grands qu'ils ont vu sur les motos. Mais il y a aussi tous ces fabricants de motos qui, lorsqu'ils vendent des motos, peuvent aussi, je dirais, faire un peu d'éducation, parce que eux, ils vendent les engins, ils les débrident, ils expliquent même comment il faut les débrider, parce que sur le fond, au départ, les engins, ils sont bridés, mais ils donnent les techniques pour pouvoir les débrider après. Et après, on atteint des vitesses qui sont obtenues par ces motos, qui sont folles, et qui créent tout cela. Mais il y a un problème d'éducation qui est posé derrière. Voilà.
Alexandre Devecchio, un problème d'éducation, un problème de civilisation.
De civilisation, oui. Je pense que c'est une forme de désintégration au sens propre. Ce sont des gens qui n'ont plus les repères fondamentaux. Il y a un déficit d'éducation totale. On obéit à ses réflexes de manière compulsive. Donc on n'est pas civilisé, si vous voulez, au sens propre. Je ne sais pas comment on récupère ça, parce que c'est un problème majeur. Je pense que ça commence dans les familles, parce qu'il y a quand même un problème dans les familles. Ça n'a pas été fait. Souvent, il faut le dire, malgré tout, il y a le résultat d'une immigration qui est venue dans des pays difficiles, avec d'autres mœurs, parfois en guerre, etc. Et on a importé quand même des difficultés qui n'étaient pas les nôtres. Et après, il y a l'école, mais l'école ne peut pas tout non plus, peut pas tout régler. Donc, il y a l'école, la police, la justice. Oui, on n'a pas parlé de justice, je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire que la police essaie de faire son travail, mais s'ils sont relâchés pour des histoires de rodéo qu'on tend à banaliser, hein, ce film, le problème c'est que ça va totalement banaliser ce genre d'affaires, et donc ils ne risquent absolument rien. Donc ils sont jamais récupérés, si vous voulez. Il y a d'abord un problème familial, ensuite l'école ne peut pas tout, et à l'école il y a plus beaucoup de sanctions. Ensuite la justice devrait tout de suite même une sanction forte finalement pour éduquer. Ça a une fonction éducative aussi, la sanction, et elle n'arrive pas. Donc il y a ces affaires de rodéo, mais souvent ça a été dit par Julien Drey, c'est des gens qui trempent dans la délinquance ailleurs, et ça peut se traduire par un accident, mais ça peut se traduire aussi par le basculement dans quelque chose, dans une délinquance plus violente, plus grave. Donc on est à un engrenage infernal, et tant qu'on n'aura pas restauré la valeur d'autorité partout dans la société, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Oui, Julien
Drey. Une remarque, tous ceux qui font de la moto sont pas tous des délinquants et sont pas.
Dieu merci.
Voilà. Et donc je pense que dans un certain nombre de départements, la question peut se poser d'ouvrir des circuits et de permettre qu'une partie de ceux qui aiment la moto, qui ont envie de se livrer à du motocross ou des choses comme ça, aient la possibilité de le faire. Il manque ces terrains. Et donc justement, souvent, on va commencer comme ça, c'est-à-dire on va se fabriquer un petit parcours, et puis vont venir d'autres qui vont être plus malins et qui vont entraîner. Donc ces phénomènes de contagion-là, il faut arriver à les juguler en offrant des possibilités à ceux qui aiment la moto et qui veulent pouvoir se livrer à ces exercices-là, de le faire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Vallet?
Oui, le fait qu'ils aient des terrains dédiés pour ça, effectivement, ça parera l'argument de dire on n'a pas d'espace pour s'exprimer par rapport à ces deux roues. Donc Nous, s'ils ont des terrains appropriés, pourquoi pas? Après, effectivement, il y a une question de justice. Il faut des peines exemplaires. C'est pour ça que nous, on dit qu'il ne faut pas incarcérer tout le monde, mais il faut incarcérer ceux qui, en fait, présentent un danger pour l'intégrité physique, pour votre vie, en fait. Hein, que ce soit ceux qui vous frappent pour voler votre montre, votre collier, votre portable, ou ceux qui roulent comme des défrénés pour vous percuter, ou en tout cas qui peuvent vous percuter. Non, mais en fait, ce que nous, on dit, Laurence Ferrari, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc faut arrêter de nous dire que quand on est pauvre, quand on vit dans une cité avec une mère seule, en fait, on devient djihadiste, on devient dealer, rappeur, voleur. Non, en fait, cette femme, elle se serait honorée à montrer dans son film des talents issus des quartiers qui réussissent, qui deviennent chef d'entreprise, avocat, commissaire de police, magistrat. Mais ça plaît pas, ce discours-là. Ces gens-là, en fait, Lola Kivoron, qui est la réalisatrice de ce film, en fait, ce qui l'a fait triper, c'est de voir des gens qui font du wheeling, qui sont des
voyous. Wheeling, c'est la moto.
Et c'est, voilà. Alors, c'est même pas des bad boys, parce qu'à la limite, les bad boys, avant, ils avaient un petit code d'honneur. Là, c'est des petites frappes à deux balles, en fait, qui ne connaissent rien et dont je veux le dire aussi, quand on n'a pas d'argent, ça veut pas dire qu'on n'est pas éduqué. Moi, j'ai pas grandi dans une famille aisée avec une cuillère d'or dans la bouche, et pour autant, ma mère m'a donné l'éducation et l'école m'a appris aussi à, grâce à la méritocratie, s'élever. Et moi, je vais vous dire, dans un contexte où on est dans une France bashing, où on dit toujours qu'on est des policiers racistes, des policiers violents, que c'est la police qui tue, puisque c'est ce qu'elle dit. Bah moi, je lui dis non, madame Kivoron. La police nationale, elle permet d'être gardien de la paix, d'être officier et commissaire. La police nationale, elle permet de protéger les gens. La police nationale permet d'éviter que des gamins de 5 ans se fassent faucher par des voyous sans foi ni loi le dimanche dans les parcs, dans les cités, dans les quartiers résidentiels où les gens ont droit à la même sécurité que dans les quartiers bourgeois. C'est ça, en fait, moi qui m'anime et qui a fait que je suis rentré policier, comme beaucoup de mes collègues policiers de tout corps et gras confondu. Voilà, c'est un peu un cri du cœur, parce que j'en ai marre, en fait, qu'on entende ces gens minoritaires, en fait, cette classe bobo hors sol qui nous dit il y a qu'à Faucon, et puis finalement le problème c'est pas les voyous, c'est la police. Je pense qu'elle pourrait prendre sa carte chez Jean-Luc Mélenchon, parce que visiblement il y a un certain discours qui est en train de transpirer dans cette réalisatrice qui fait que malheureusement on donne pas la parole à cette majorité que vous avez montré dans votre reportage, qui veut la police, qui aime la police, qui soutient sa police et qui en fait sait que la police protège les plus faibles et les plus vulnérables et que le seul adversaire de la police c'est les voyous.
Mais avec une remarque, c'est
ça
pas
ça, c'est envoyé,
c'est
un tout dernier mot,
juste une remarque. Ceux qui pratiquent ce genre de comportement, c'est pas des gens qui ont pas d'argent.
Non.
C'est ça le pire.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la délinquance pour une part et qui ont de l'argent par ces trafics-là. Et justement, ils servent de mauvais exemples à ceux qui n'ont pas ces moyens-là et vont faire n'importe
Merci.
Quoi après.
Julien Drey, Mathieu Vallet, Merci. Alexandre Devecchio, rendez-vous dans un instant sur Europe 1 pour Punchline et sur CNews. C'est Christine Kelly qui vous attend. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Et Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Bonsoir.
Bonsoir Alexandre. On va évoquer la question du pouvoir d'achat central, évidemment, pour les Français. Bruno Le Maire, hier, demandait à nouveau aux entreprises d'augmenter les salaires afin que le travail paye et paye bien, c'est ce qu'il disait. Écoutez la réponse de Marine Le Pen. Elle était en déplacement aujourd'hui à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône.
Eh bien, ils défendront ce que nous avons défendu pendant la campagne présidentielle, à savoir la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%, la TVA 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient d'ailleurs alimentaires ou d'hygiène. Donc nous serons attentifs à cela, car nous remarquons que la politique d'échec par ailleurs distribué n'importe comment, puisque des députés européens l'ont reçu quand même, faut le dire, alors que moi j'ai croisé des gens qui sont dans des situations économiques critiques qui n'ont pas été bénéficiaires de ces chèques. Donc le plus simple est de rendre leur argent aux Français plutôt que de leur en prendre et de faire mine de leur en redonner un tout petit peu de temps en temps.
Voilà la critique de Marine Le Pen, Alexandre Chauveau, et elle dit que ses candidats vont défendre évidemment les propositions qu'elle avait mises sur la table pendant la présidentielle.
Oui. On voit qu'elle est un petit peu embêtée parce que elle avait préempté ce sujet très clairement pendant la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon également, et on voit que le pouvoir d'achat, c'était un pari payant pour elle, le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, et en fait le gouvernement est clairement en train de venir sur ce terrain-là. Emmanuel Macron a établi trois priorités, la santé, l'éducation et l'écologie, enfin la transition énergétique et écologique, et au-delà de ces trois priorités, il y a vraiment le sujet urgent qui est le pouvoir d'achat. Et un premier texte de loi devrait être présenté en Conseil des ministres avant les législatives, qui inclurait toute une série de mesures. Alors il y a la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, la remise des prix sur le carburant, la création du chèque alimentation, la revalorisation des minima sociaux, l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc en fait, le gouvernement met en bas de la pile le dossier, par exemple, de la réforme des retraites, qui est plus problématique, et va tout de suite avant les législatives sur la question du pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français.
Jean-Claude Dacier.
Ça n'a sans doute rien à voir avec les élections.
Sans doute.
Probablement. Hein. Moi, je vais vous dire, je regrette, alors je ne sais pas qui l'a bâti, je ne me souviens même plus de la loi en la matière, s'il y a une loi, Je trouve que le délai entre la présidentielle et législative est trop long, que chacun s'endort un peu, répète un peu de manière systématique les arguments qui ont été les siens pendant la campagne présidentielle. On vient d'écouter Marine Le Pen, qui est en train effectivement de se faire voler sa campagne assez efficace sur le pouvoir d'achat et les Français qui peinent à finir leur fin de mois. Le gouvernement, en tout cas, l'a entendu.
Mmh. Oui,
nous allons avoir...
Vous ne pouvez pas ne pas entendre les Français aussi. Hein.
Oui, enfin, je pense qu'il faut quand même regarder les choses peut-être d'un peu plus près que ce qui est dit un peu rapidement ici ou là. Néanmoins, faut attendre prudemment, mais j'ai entendu avec intérêt la liste des points sur lesquels le gouvernement...
Le triplement de la prime Macron aussi.
Voilà, le triplement de la prime qui était
en fait, versé par, qui peut monter jusqu'à 6 000 euros, qui pourra monter jusqu'à 6 000 euros, qui est appelé prime Macron, mais qui est en fait versé par les patrons qui, selon leur seul...
Mais défiscalisé, enfin, c'est ça. Bon. Et puis il y aura évidemment la réindexation
Macron qui a
des retraites sur l'inflation dès le mois d'août, peut-être même dès le mois de juillet pour être payé au début du mois d'août, etc., etc. Je ne sais pas comment
ça va.
Mais
ça, c'est la politique d'échec qu'elle dénonce quand même, Marine Le Pen.
Ben, je serais tenté de...
Elle dit qu'il faut une baisse massive sur la fiscalité, voilà, la TVA.
Mais bon, sur l'énergie. Oui, la baisse massive de la fiscalité, et après, on fait comment ? Je ne sais pas à quel montant se fixera et se terminera ce plan spécial avant-élection de lutte contre l'inflation et la baisse des pouvoirs d'achat des Français. Il va sans doute y avoir aussi des mesures sur l'essence, peut-être. Moi, ce que je souhaiterais simplement, mais mon Dieu, c'est qu'on soit un petit peu plus sélectif qu'on l'était jusqu'à présent. C'est bien que tout le monde bénéficie, vous, moi, tout le monde, des 18 centimes de réduction sur le prix des carburants. Je préférerais quelque chose de plus ciblé sur ceux qui en ont vraiment besoin.
A priori, il y aura une mesure sur les gros rouleurs en septembre.
Ça serait bien. Alors, je reconnais que ça
devrait être facile. Qu'est-ce que sont les gros rouleurs ? C'est encore un autre
sujet. Idem pour les chèques alimentaires. Il y en a pour qui c'est absolument et très probablement indispensable. Et j'espère que Bercy sera capable. Je reconnais que c'est pas simple, hein, de cibler ces aides diverses et variées à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est tout ce que je trouve indispensable, parce que je ne sais pas combien ça va coûter, attendons. Mais dans l'état du pays, vu l'état lamentable de ses finances, je pense qu'il faut regarder tout de même cet argent que l'on dépense, de manière parfaitement légitime pour ceux qui en ont vraiment besoin. Pour le moment, on donne un peu à tout le monde, ça me paraît excessif.
Alexandre,
les mesures proposées par Marine Le Pen pendant la présidentielle étaient aussi très coûteuses, et
oui,
c'est aussi pour ça qu'elles ont été épinglées, mais la baisse de la TVA à 5,5 sur les produits premières nécessités, ou à zéro,
baisse à zéro, oui, sur une centaine de produits de panier.
On peut dire que ce sont des chèques déguisés aussi, d'une certaine manière.
Oui, mais j'excuse pas l'un ni l'autre, je trouve simplement qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Peut-être sont-ils moins nombreux que ce qu'on dit, mais ceux vraiment qui sont contraints notamment de prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler, emmener les enfants à l'école, cela mérite en effet qu'on prenne en compte leurs besoins et leurs contraintes journalières.
Après, sur la question du travail, Jean-Claude, il faut que le travail paye.
Oui, alors ça, c'est autre chose.
Bruno Le Maire. Et là, il se tourne vers les entreprises. Hein.
C'est vrai, mais
il dit pas, j'allège les charges.
C'est vrai, mais là aussi, il faut que chacun fasse un effort. On se plaint que les entreprises soient parties, pour un certain nombre d'entre elles, travailler à l'étranger. On se demande pourquoi, si ce n'est à cause de la fiscalité et des taxes. On est le pays le plus taxé d'Europe et quasiment du monde, il ne faut pas quand même l'oublier. Il faut qu'un certain nombre d'entreprises aient la capacité non seulement d'augmenter les salaires quand ils le peuvent, mais aussi revenir, dans la mesure du possible, produire en France. Mais monsieur le ministre de l'économie, des finances, son territoire s'est élargi. Qu'est-ce qu'on fait sur les taxes de production ? Qu'est-ce qu'on fait sur la fiscalité des entreprises ? Est-ce que les efforts qui seront demandés aux entrepreneurs seront défiscalisés ? C'est ça où on ne reculera que pour mieux sauter dans la trappe du chômage. On en a déjà assez comme ça. Donc oui, il y a une augmentation des salaires. Il y a beaucoup de gens, là encore, il va falloir, je pense, cibler. Il y en a beaucoup de gens à qui ça fera du bien et qui en auront besoin. Encore faut-il que ça n'entraîne pas derrière un chômage excessif ou des entreprises qui auront des difficultés ou qui mettront des mois, voire des années, à rembourser pour celles qui les ont contractées les fameux plans Les fameux PGE qui devraient être remboursés à la fin de l'année. Et je crois qu'ils en ont pris pour un an de mieux.
En tout cas, on voit bien que dans cette volonté de partager les frais de l'inflation entre l'État et les entreprises, ça coince au niveau des entreprises. Il y a notamment François Asselin, le patron de la CPME, qui a dit, moi, je veux bien augmenter les salaires, mais dans ce cas-là, je veux augmenter les produits finaux de ces ventes. Donc, c'est vraiment une question compliquée.
Les grosses entreprises que l'on critique, mais moi je les, il faudrait qu'on en ait encore plus des grandes entreprises. Là, en revanche, je crois que, alors, elles payent pour beaucoup des impôts importants, mais je crois qu'il faudra accélérer partout où c'est possible l'intéressement pour les travailleurs.
Ça fait partie, l'épargne salariée, ça fait partie des promesses d'Emmanuel Macron.
Il faut en effet que ces choses-là, alors, donnons-nous un petit peu de temps quand même avant critiquer, de dire que tout ça ne vaut pas est dû uniquement à la proximité des élections. Voyons le plan dans son ensemble, voyons ce qu'il va coûter, et j'espère encore une fois qu'ils seront cette fois à Bercy capables, et aux finances, de mieux cibler, parce que c'est cela qu'il faut aider.
Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1, on reviendra sur la polémique autour de Damien Abad, et on entendra aussi le fait que Nicolas Hulot est entendu à Paris sur des accusations de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier et avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un mot d'abord de Nicolas Hulot, l'ancien animateur de télévision et ancien ministre de la Transition écologique, a été entendu aujourd'hui en audition libre par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Ça avait été révélé lors d'une émission diffusée sur France 2. L'avocate n'a pas répondu aux sollicitations des journalistes. Et évidemment, il s'agissait d'une audition libre de Nicolas Hulot, puisque les faits qui concernaient cette mineure, a priori, sont prescrits par la justice, Alexandre Chauveau.
Oui, les faits auraient été commis entre 1989 et 2001. Donc la prescription sexuelle, la prescription pour ce type de délit ou de crime, je crois que c'est autour de 20 ans.
Oui.
Donc il est auditionné en audition libre.
Et effectivement, c'est un dossier qui résonne beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, Jean-Claude.
Je ne voudrais pas que ce que je vais dire soit pris la plus mince des complaisances à l'égard des agresseurs sexuels. Sûrement pas. Bon, je connais Nicolas Hulot depuis 40 ans, PPDA idem. Il y a quand même quelque chose qui me gêne. À partir du moment où ces faits sont prescrits, en principe, il ne devrait pas, et il n'y aura probablement pas d'ouverture d'enquête judiciaire. Mais alors pourquoi convoque-t-on Nicolas Hulot cet après-midi, PPDA en autres circonstances, demain sans doute d'autres? Pourquoi les convoque-t-on, puisqu'on sait que la justice, au fond, ne pourra pas se saisir de ces faits? Et elle va regarder, après, s'il n'y a pas une faille quelque part, mais a priori, il y a prescription, elle ne pourra pas. C'est exactement
Les investigations devront déterminer s'il y a prescription de l'action publique ou pas.
C'est un peu, gesticulation. Parce que c'est un peu comme si, vous voulez, on laissait les médias, et on le fait, sanctionner auprès de l'opinion les peines que la justice ne peut pas prononcer. Quelque part, ça me gêne un peu. Je pense qu'il serait utile, vu la vague déferlante de MeToo, et qui ne va pas se terminer ce soir, je pense qu'il serait bien que les députés de la nouvelle Assemblée se saisissent, commission des lois, se saisissent de cette difficulté où on augmente la prescription, où on essaie de dire clairement comment on fait le choix entre la présomption d'innocence, des faits qui sont rapportés mais qui sont en réalité pas entendus. Il y a du flou. On ne sait pas très bien ce qu'on va faire de ces dossiers qui se multiplient. Beaucoup de femmes. Et on comprend pourquoi, les traumatismes, etc. etc.
Oui, la mémoire traumatique.
Souvent attendent, et ça a été le cas notamment pour Nicolas Hulot, la fin officielle de la prescription pour dire voilà ce qu'il m'a fait. Et c'est effectivement, la sanction, c'est nous qui la prononçons quelque part média, parce qu'on dit à M. Nicolas Hulot, ce que vous avez fait n'est pas bien. Mais il se défend en disant, mais pas du tout. Et on n'y voit pas clair, en réalité. Essayons, si c'est possible, de légiférer, une fois pour toutes, de manière à clarifier une situation qui va se multiplier. On en parle presque tous les jours.
Alors justement, on va parler de l'affaire Damien Abad, qui évidemment a été nommé ministre des Solidarités et qui lui aussi est accusé d'agression sexuelle. Deux plaintes ont été classées sans suite pour une femme. L'autre n'a pas porté plainte, elle est restée anonyme. On va écouter Xavier Bertrand, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, qui estime que l'exécutif qui l'a nommé ministre était au courant.
Qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la Première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez,
elle
vous
l'a
êtes...
dit. Elle l'a dit qu'elle ne savait pas.
Allons.
Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important. Elle aurait menti.
Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé. Quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui, vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière. La vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause.
Voilà pour ce qu'a dit Xavier Bertrand ce matin sur notre antenne. Alexandre Chauveau, c'est une accusation qui porte loin quand même.
Oui, il y a trois hypothèses. Soit Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Alors, je pense qu'on peut surtout parler d'Emmanuel Macron parce qu'on peut présumer que le gouvernement, sans manquer de respect à Elisabeth Borne, avait été composé avant sa nomination. Enfin, en tout cas, en grande partie. Soit il ne savait pas, auquel cas les procès en amateurisme sont assez légitimes. Soit il savait, parce que tous les profils sont scannés vraiment de A à Z depuis le début de leur vie politique et publique. Et on sait que ces plaintes, la classe politique en avait conscience. Peut-être qu'Emmanuel Macron a sous-estimé le fait que ces plaintes allaient remonter à la surface au moment de la nomination de Damien Abad. Soit il y a la troisième hypothèse, elle est plus cynique, et c'est l'hypothèse de Marine Le Pen, c'est que Emmanuel Macron savait, mais que dans la balance, la prise de guerre que représentait Damien Abad
faisait
plus lourd, ouais. que le témoignage de ces jeunes femmes et le fait d'aller chercher comme ça. Alors elle dit à un joueur de l'équipe adverse, mais en l'occurrence le président du groupe LR à l'Assemblée, ça pesait plus lourd dans la balance.
Jean-Claude Dacier.
Et ce qui va dans cette direction, dans cette hypothèse, c'est que pour le moment, le gouvernement, je ne dirais pas défend Damien Abad, mais en tout cas ne l'accable pas. Et il est toujours ministre en charge du périmètre qui lui a été confié. Sur Madame Borne, je crois que c'est une honnête femme. Et si elle dit qu'elle ne savait pas, je pense qu'elle ne savait pas. En revanche, là où je te rejoins, c'est que on raconte qu'à l'Assemblée, dans les couloirs, dans la salle des pas perdus, il était, paraît-il, fréquent. On connaissait cette histoire. Elle était racontée, les assistantes parlementaires disaient « Mais dites-moi comment se fait-il ?» Donc cette histoire était connue. Que personne n'ait remonté ce dossier, entre guillemets dossier, dans les couloirs de l'Élysée m'étonne un peu. Donc je voudrais bien croire que la prise de guerre était importante quand même. Le patron des Républicains à l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. Un authentique handicapé lourdement, qui vit son handicap chaque seconde de sa vie. Je pense qu'il est apparu sans doute au président de la République que le dossier était défendable. Néanmoins, honnêtement, les heures passent, on verra bien s'il y a une nouvelle plainte qui vient. Comme c'est de coutume, lorsque Mediapart sort une affaire, en général, il se garde des cartouches pour les semaines qui suivent ou les jours qui suivent. On verra.
Il peut tenir, Damien Abad, si il y a une plainte qui est formalisée ?
Si je m'écoutais, je dirais qu'il devrait, parce que c'est comme Darmanin, c'est la même chose. En réalité, la pression politique va sans doute être très forte. Ça serait une lourde défaite pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, quand même. Hein. Il nomme quelqu'un, il savait probablement ce qu'on pouvait lui reprocher, ou alors il y a un problème. Le courant ne passe plus entre l'Assemblée nationale et l'Élysée, quand même. Donc il savait probablement, il a pris son risque, parce que la prise de guerre était importante, à ses yeux en tout cas. Je pense qu'il va avoir du mal, Damien Abad, à s'en sortir, parce que le mouvement féministe est puissant, il a des relais nombreux, et je pense qu'il risque d'avoir un début, s'il reste d'handicaper un peu le gouvernement de Mme Borne, qui aura bien d'autres soucis que celui-là.
Je pense que si la situation reste en l'état, il peut tenir, parce que les deux plaintes, elles ont été, enfin, c'est deux plaintes qui concernaient la même femme, elles ont été classées sans suite en 2017. En réalité, il n'y a rien de
Il y a un signalement. Il y a un signalement pour la deuxième femme.
Voilà. Judiciairement, Damien Abad est à l'abri, et surtout Emmanuel Macron...
Oui. C'est politiquement.
Soit il s'en fiche, soit parfois il prend un malin plaisir à aller contre les juges, à aller contre la doxa,
contre la presse.
Voilà, contre la presse, exactement. Il y a la jurisprudence d'Éric Dupond-Moretti qui est mise en examen pour des tout autres faits.
Un peu plus compliqué, Dupond.
Prise illégale d'intérêt.
Voilà, prise illégale d'intérêt qu'Emmanuel Macron protège. Il y a eu l'affaire Darmanin qui a donné lieu à un non-lieu, justement. Mais si Emmanuel Macron et le gouvernement décident de protéger Damien Abad et qu'il n'y a pas de nouvelles plaintes, je pense que Damien Abad peut tenir...
Une toute petite seconde sur Dupond-Moretti, c'est assez culotté de la part du président de la République. Il dit aux magistrats, vous n'êtes pas un pouvoir, c'est pas vous qui commandez ce pays, vous réprimez quand il faut réprimer, vous condamnez quand il faut condamner. Pour le moment, rien ne peut, juridiquement, n'amène M. Dupond-Moretti à démissionner, et c'est pas vous qui le déciderez. S'il y a quelque chose qui... Bon, le Cour de justice de la République est saisi du dossier, la Chambre d'instruction de la Cour de justice de la République va regarder ça de près, on verra. Je trouve ça... Il leur dit, en fond, aux magistrats, c'est... Vous êtes une autorité, vous n'êtes pas un pouvoir. C'est moi qui décide. Et pour le moment, je pense que les faits que vous racontez ne sont pas, contrairement à ce que M. Molins a dit, ne sont pas politiquement recevables.
Concernant Dupond-Moretti, on est d'accord.
Concernant, en effet, Dupond-Moretti.
Pour Damien Abad, la situation qui arrangerait tout le monde, ce serait une défaite aux législatives, parce que le président de la République a indiqué que tous les ministres, donc il y en a 15 en comptant Elisabeth Borne, s'ils venaient à perdre aux législatives, ils devraient démissionner. Si Damien Abad n'obtenait pas les suffrages de sa circonscription dans l'Ain,
c'est vraiment une façon très très hypocrite, je trouve, de régler le problème.
C'est aussi le juge de paix, l'électorat.
Mais enfin, est-ce que c'est aux électeurs de trancher ce genre de choses?
En plus, Damien Abad est très implanté.
Il est très implanté.
En 2012, réélu en 2017.
Mais oui, c'est à eux de dire, nous acceptons, sa défense nous paraît crédible, les reproches qui lui sont faits ne nous paraissent pas suffisamment étayés, nous revotons pour lui. C'est la souveraineté nationale, Laurence.
Mais il y a la justice aussi, Jean-Claude.
Mais la justice, elle a eu saisie du dossier, elle a dit deux fois, je classe sans suite. Bah, moi, j'ai pas étudié le dossier. La plainte a été classée deux fois sans suite. Ça veut aussi dire quelque chose. Et après tout, les électeurs, vous avez tout à mes yeux, vous avez raison, les électeurs, c'est le juge suprême.
Sur cette affaire, je trouve que la classe politique, hormis une ou deux exceptions, a été assez clémente vis-à-vis de Damien Abad. Et alors, il y a Sandrine Rousseau et Olivier Faure de la Nouvelle Union Populaire qui ont appelé à sa démission par principe de précaution, mettant à mal la présomption d'innocence. Mais sinon, ni Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé, sauf erreur de ma part, ni Marine Le Pen, ni à droite, son ancienne famille politique chez les Républicains.
Marine Le Pen dit qu'elle n'aurait jamais dû arriver au gouvernement.
Oui, mais elle n'appelle pas à sa démission. Voilà,
c'est ça. Elle n'aurait jamais dû.
Politiquement, elle cible Emmanuel Macron. Mais Christian Jacob, par exemple, le président des Républicains, dit qu'il n'appelle pas forcément à sa démission, que c'est à Damien Abad, en conscience, de savoir ce qu'il a à faire. Et plusieurs députés pensent la même chose, que maintenant, c'est.
Mais tout ça remonte à 10 ans.
Dernier
mot. La République en marche de. 10 ans de tranchée.
Bah écoutez, merci à tous les deux pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant pour Cédric Poulioline, Service Pioline, notre émission évidemment spéciale Roland Garros. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.